D'abord, je veux remercier tous ceux qui ont envoyé des textes. Je suis impressionnée par le travail que vous avez fait. C'est chouette. Il y a beaucoup de choses précieuses, donc vous allez certainement les retrouver. Je ne vais pas nommer tous les gens qui ont participé, mais ça m'a donné beaucoup plus de travail. En fait, ça fait 2 jours de travail en plus. Donc c'est bien. C'est bien parce que bon, le temps de lire vos textes, de prendre vraiment ce que j'ai pas pu, oh, t'es chaud, ce que j'ai pas pu dire moi et remettre ça dans l'ensemble du message. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps, mais c'est très précieux, je pense, parce que vous connaissez le but de ce travail. Merci. J'ai horreur de tenir le micro. C'est bien. Le but de ce travail, c'est que chacun connaisse la parole de Dieu pour lui-même. Comme je vous ai dit et je le redirai, vous savez que je me répète beaucoup. Les mamans en général, les grands-mères c'est encore pire et les profs c'est terrible. Donc vous voyez, j'ai les trois, donc c'est grave. je me répète, mais c'est très important qu'on lise la Bible par soi-même. L'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, c'est pas bon. Il faut vraiment qu'on ait une connaissance perso de la parole de Dieu. Et puis qu'elle soit aussi dans la sagesse. On ne prend pas un verset, je vous ai déjà dit, n'importe comment, pour l'appliquer n'importe comment. Et c'est pourtant, bon, c'est une tendance humaine, on ne va pas la juger, mais bon, c'est dangereux. Donc voilà, qu'on connaisse la parole de Dieu pour soi-même, c'est important. Donc je suis contente de voir que beaucoup de gens, il y en a qui ne l'ont pas envoyé, mais je sais qu'ils l'ont fait. Et ça fait plaisir aussi, parce que je pense que plus notre Église va être imprégnée de la parole de Dieu, plus on va être stable et solide. C'est le rocher, c'est Jésus, c'est vraiment l'obéissance à sa parole. On dit parfois que le rocher c'est Jésus, oui, mais c'est surtout, la Bible dit, l'obéissance à sa parole. Et pour l'obéir, il faut la connaître et il ne faut pas la déformer de trop. On la déformera toujours un peu parce qu'on est humain, il ne faut pas rêver, mais le moins possible. Alors, on avait parlé de l'amitié de Jonathan et David. Alors, quelqu'un m'a fait une très bonne étude sur l'amitié. Ce serait trop long, mais j'ai pris certains éléments. Et je vais en parler parce que j'avais déjà expliqué que ça n'a rien à voir avec ce que certains en ont fait dans la société moderne. Par contre, c'est vrai que c'est l'amitié de Jonathan et David, c'est surprenant. Quelqu'un a noté que c'est un cas quasiment unique. Par contre, il y a un verset dans Genèse 44-30 qui parle de la même façon de l'âme attachée à l'âme de David. C'est Jacob et Benjamin. Son âme était attachée à Benjamin. Voilà, on n'a pas beaucoup d'exemples dans la Bible, donc merci à la personne qui a relevé ça. On n'a pas beaucoup d'exemples dans la Bible comme ça. C'est un cas un peu unique. C'est un cas un peu unique. Donc, si c'est unique, ça doit quand même nous faire réfléchir aussi. Donc, j'ai essayé de revoir un peu comment est née cette amitié entre Jonathan et David. Et on va parler aussi un peu de l'amitié pour le chrétien. Alors, elle est née en combattant ensemble. J'imagine que quand Jonathan a vu David vaincre Goliath, il a dû avoir le choc de sa vie. Waouh ! Et puis, ils ont combattu ensemble. Vous vous souvenez, on a vu ces passages où ils ont agressé des Philistins qui étaient venus faire le siège. Et voilà, tous les deux, à eux deux, ils ont vraiment fait des trous dans les rangs des Philistins. C'était impressionnant. Donc, ils ont combattu ensemble un même ennemi qui venait ravager leur pays. Important de savoir, quand on a une amitié, qu'est-ce que Dieu veut faire de cette amitié. C'est quelque chose qu'on doit travailler ensemble. Et l'important dans une amitié, c'est d'avoir une vision commune. Eux, ils avaient un ennemi commun, et puis un désir commun de repousser l'ennemi. Et bien, nous, c'est important qu'on ait une vision et une mission commune. Une bonne amitié, une amitié solide, va nécessiter forcément une vision commune et une mission commune aussi. Alors, pas forcément dans les détails, mais c'est indispensable. Si on a deux visions différentes de la vie, c'est pas possible. Ça veut pas dire que c'est mauvais, mais ça va pas forcément être gérable à long terme. On peut bien aimer certaines personnes, avoir de bonnes relations avec eux, mais ça va pas forcément être des amis-amis, parce que on a deux façons différentes de voir la vie, et puis on n'a pas forcément la même mission de la part du Seigneur. Ça, c'est très important. L'amitié de Jonathan et de David était fondée sur leur amour commun pour Dieu. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, on ne peut pas avoir que des amis que parmi les chrétiens. C'est vrai. On peut très bien avoir des amis non chrétiens, mais ça ne sera pas tout à fait la même chose. On sera là pour leur apporter un éclairage, pour leur montrer aussi comment vit un chrétien. Ça peut être une très bonne chose. C'est comme ça que beaucoup de gens sont venus au Seigneur. C'est pas du tout, on peut pas, et c'est là, on rejoint André qui dit toujours, faut pas être dialectique, hein. Non chrétien mauvais, chrétien bon. Non, parce que parfois vous avez des amis non chrétiens qui vont être plus précieux, plus efficaces, plus gentils, etc. Donc, on peut pas faire de dialectique, là. On peut pas dire, voilà, non chrétien mauvais, mais, voilà, on n'a pas forcément les mêmes intérêts et pas le même amour commun pour Dieu. Et ça, ça peut être pénible dans certaines situations. Pour Jonathan et David, il y avait l'amour commun pour Dieu, un grand respect de Dieu chez les deux, une grande crainte de Dieu. Et ça, c'est quelque chose, bon, je ne veux pas être négative, mais je trouve qu'il disparaît un petit peu. Donc, il faut être attentif. Et plus on va connaître la parole de Dieu aussi, plus on va avoir ce respect et cette crainte de Dieu. La crainte de déplaire à Dieu. Pas la frousse mortelle du Dieu qui va vous taper dessus. Non, non. Mais une crainte respectueuse. Vraiment, je veux faire plaisir à Dieu par ma vie. Ils avaient ça tous les deux. Jonathan va suivre le plan de Dieu pour David. Et il l'accepte. Et ça, c'est un point très important dans l'amitié. Il n'a pas forcément le même plan pour sa vie, Jonathan. Puisqu'il lui a même laissé sa place. Mais il est d'accord avec le plan de Dieu pour David. Ça, c'était la base. S'il n'avait pas été d'accord, ça aurait été une relation très compliquée. Parce que lui, en tant que prince, aurait voulu garder ce qu'il aurait pensé être le plan de Dieu pour sa vie, succéder à son père, et il aurait du coup été forcément en opposition avec David. Donc, un ami, je pense, c'est important, il suit le plan de Dieu pour la vie de l'autre. Et ça, c'est pas facile. Parce qu'on n'a pas forcément le même plan de vie. On n'a pas forcément les mêmes appels. Ça n'empêche pas qu'on soit amis quand même. Hein. Et du coup, l'amitié demande cette souplesse, je pense. Et Jonathan a eu cette souplesse extraordinaire. D'encourager, même à ses dépens, les promesses de Dieu dans la vie de David. Il y a perdu sa succession dynastique et son propre intérêt, évidemment. Mais il était soucieux que le plan de Dieu se réalise dans la vie de l'autre, de David. Et je pense que pour nous, c'est aussi une leçon. La vraie amitié va laisser l'autre libre. Libre de suivre ce que Dieu lui a demandé, même si c'est totalement différent de ce que nous on fait. Hein, je vois des gens qui ont été, par exemple, amis avec des jeunes qui ont été appelés en mission. Ah, c'est pas une amitié facile quand l'autre il part à l'autre bout de la planète. La tendance aurait pu de dire, non, mais reste, t'es sûr que t'as bien entendu, on peut faire ça et ça ensemble, moi Dieu m'a appelé à ça, viens avec moi. Non, je crois que la vraie amitié, c'est laisser le plan de Dieu se réaliser dans la vie de l'autre. Et vous remarquerez que David n'a jamais fait pression pour que Jonathan le suive. C'est le point que moi, la semaine dernière, ça m'a un petit peu choquée, mais on va en reparler. Et Jonathan n'a pas non plus fait pression sur David pour qu'il ne quitte pas le palais. Donc, on va trouver un arrangement. Non. Chacun suivait le chemin que Dieu lui a tracé et l'autre l'acceptait. Et cette liberté dans l'amitié, c'est fondamental. L'amitié cherche le bien-être de l'autre et la volonté de Dieu qui se réalise dans la vie de l'autre. Et on voit que David ne fait aucun reproche. Ça m'a choquée d'ailleurs, quand Jonathan part et le laisse. C'était leur dernière entrevue. Jonathan vient l'encourager, vous vous souvenez? Et puis, il le laisse partir. Pas un commentaire. « Oh, Jonathan, reste avec moi, tu te rends pas compte, je suis en danger. On n'est que 600 et ton père, il en a 3000. » Rien. Il le laisse suivre son chemin. Et je pense que pour moi, une des grandes bases de l'amitié, une amitié durable, c'est préserver la liberté de l'autre et ne jamais faire pression. Jamais. Et je vous en ai déjà parlé, je crois, à propos des quand on prie à deux ou trois, ou voilà, c'est très très important. C'est Dieu qui gère, mais nous, on n'est pas là pour contrôler. L'amitié aussi comprend la situation de l'autre qui est différente. Et là, Jonathan est un bon exemple, situation complètement différente. À propos du contrôle, je pense aux enfants. Alors, je ne sais plus laquelle des trois filles m'avait dit une fois qu'elle avait une copine à l'école. Il fallait toujours faire ce qu'elle voulait. On jouait à ça, on faisait là, on allait à ça, on aimait ceci, on n'aimait pas cela. Il ne fallait pas aimer tel Disney ou telle chose. Et je dis, mais attends, ce n'est pas de l'amitié, ça. C'est pas une vraie amie. S'il faut tout le temps que tu obéisses à tout ce qu'elle veut, aimer ce qu'elle aime, détester ce qu'elle déteste, faire les jeux qu'elle veut, etc., tout le temps dans ce sens-là, Je dis, c'est pas bon. C'est pas ça une amie. J'avais dû lui expliquer. Vous voyez, pour les enfants, c'est même déjà pas évident. Parce qu'elle était rentrée dans ce truc-là. Pourtant, elle a la personnalité. Mais voilà, elle était complètement contrôlée. Et ça, c'est pas bon. C'est pas une amitié, ça. C'est même extrêmement dangereux. Parce qu'on dépersonnalise l'autre. Alors, l'amitié, la vraie, n'est jamais liée à l'intérêt personnel. Et ça, franchement, humainement, c'est difficile, soyons honnêtes. On va toujours chercher un minimum notre intérêt. C'est normal, on est humain. Mais la vraie amitié va pas considérer seulement ce que l'autre peut m'apporter, mais comment, moi, je peux lui apporter quelque chose. Il y a quand même un retour. Et choisir des amis uniquement pour ce qu'ils peuvent nous apporter, c'est utiliser les gens et c'est extrêmement dangereux. Il faut être très attentif à ça parce qu'on le fait rarement volontairement, mais ça peut aboutir à ça. Et Jonathan et David, franchement, c'était un bon exemple. Alors, il y a quelque chose, après j'ai noté quelques petites choses dans la vie chrétienne. L'amitié, et même pour les non-chrétiens, c'est pareil, l'amitié a des saisons. L'amitié a des saisons. Voilà, on ne peut pas le nier. Autant qu'on ne peut pas être ami avec tout le monde, parce qu'on n'aurait pas assez que nos 10 doigts pour envoyer des mails. Mais autant l'amitié a des saisons. Et simplement dans la vie, hein, par exemple, l'amitié des jeunes couples va plus forcément convenir quand chacun a ses enfants. Les intérêts peuvent diverger. L'amitié des parents avec enfants va plus forcément être la même entre... Voilà, va plus forcément être la même, oui, quand on est retraité. Parce que c'est une autre saison qu'on ne va pas aborder forcément de la même manière. Il y a des saisons et il faut les accepter. L'idéal de dire « ami pour la vie », c'est gentil, mais ça ne tient pas compte du fait que l'homme est faillible et qu'il a des défauts et qu'il y aura forcément des moments où ça marchera moins bien. Et l'alliance de l'amitié n'est quand même pas comme celle du mariage. Attention, c'est pas la même. Et voilà, je pense que Jonathan et David ont été une exception dans ce domaine. Ils ont tenu bon jusqu'au bout. Mais voilà, il faut penser qu'il y a des saisons. Et il ne faut pas en faire un monde quand les relations peuvent se distendre parce qu'on entre dans une autre saison de notre vie. C'est pareil dans le cadre du ministère. Des jeunes, par exemple, je reprends l'exemple des jeunes. Il y en a un qui va partir comme missionnaire à l'autre bout du monde. Il y en a l'autre qui va rester, qui va avoir un boulot dans la société. Ils vont plus forcément partager les mêmes choses, tout en restant sympathiques, enfin les uns avec les autres. Il y aura une saison où ils auront été très proches, ils seront beaucoup soutenus, et puis une autre saison où ils se verront un peu plus de plus loin. Un autre point qui est important aussi, c'est qu'on a beau être chrétien. L'amitié n'est pas au même degré avec tout le monde. On n'est pas des robots. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est des robots et qu'on doit donner 98,5% d'amitié à tout le monde. Non. On va avoir des amis beaucoup plus proches, on va avoir des amis un peu plus, des relations un peu plus distendues. Le tout, c'est évidemment de s'aimer les uns les autres. Mais les liens d'amitié ne vont pas être les mêmes. Et c'est normal. Il y a une chose dans les églises à laquelle je suis un petit peu attentive, c'est qu'on ne forme pas des clans hermétiques. Que les amitiés soient suffisamment ouvertes pour que quand nous et nos meilleurs amis, on voit une personne en détresse, on ne lui ferme pas la porte sous prétexte qu'elle n'est pas dans le cercle. Voilà. Donc attention, faut pas qu'il y ait ce côté hermétique. Mais ceci étant, c'est normal. C'est normal qu'on ait des cercles d'amis plus proches, etc. Alors, on m'a déjà posé la question, les affinités. Ça joue, ça joue pas. Mais bien sûr, on n'est pas des robots parce qu'on est chrétien. Les affinités, ça joue. Et c'est important. Et des dames qui ont envie de faire une activité ensemble et qui s'entendent bien, c'est super. C'est super, les affinités, ça joue. Et c'est très bon, à condition que ça soit jamais exclusif. Hein, nous, on est le club qui fait ça, donc on est meilleur. Dès qu'on rentre dans une dialectique, là, nous on est bons, les autres sont mauvais parce qu'on n'a pas les mêmes affinités. Bon, là, c'est le danger. Mais tant que ça reste ouvert, les affinités, c'est important. La Bible dit qu'il faut se rassembler pour devenir meilleur et pas pour devenir pire. Et je pense que c'est un bon critère. C'est le critère que j'ai utilisé quand j'ai élevé mes enfants et que j'utilise aussi avec les petits-enfants. Est-ce que leurs amitiés est constructive ou est-ce qu'elle est toxique? Il y a des amitiés toxiques. Et il faut y faire attention. C'est le critère de la Bible. Quand Paul dit « Vous vous rassemblez pour devenir pire et pas pour devenir meilleur. » Oula, c'est un feu rouge. Si on s'assemble pour devenir pire, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc, ça, c'est un critère. Je pense aux parents avec les enfants aussi. Une amitié qui rend les enfants pires, ça va être un danger. Il ne faut pas rêver, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Une amitié doit être constructive. Que ce soit avec un non-chrétien ou un chrétien, elle doit être constructive. Si une amitié devient lourde à porter, destructrice donc, je pense que c'est important de consulter le Seigneur. Là aussi, on ne va pas aller en blanc, noir, c'est bon, c'est mauvais. Il est important de consulter le Seigneur. Et ça m'est arrivé, quand j'étais plus jeune, de dire bah, il faut prendre des distances parce que ça, je ne sais pas, moi, ces gens-là, à chaque fois que je les vois, ou cette fille-là, à chaque fois que je la vois, oh, je perds le moral. Bah, c'est un signe, oui. C'est destructeur. Donc, si je ne suis pas capable de l'encourager, si tout ce que je lui apporte, ça ne sert à rien, et qu'en plus c'est moi qui me déprime, je pense qu'il faut être très clair et mettre un peu de distance. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens, mais on établit des distances. Un dernier point aussi, c'est que je pense toujours à ce verset qui dit « Celui qui néglige sa famille est pire que les infidèles ». Waouh, ça fait peur, hein. L'amitié ne doit jamais se faire au détriment de la famille. Et ça, j'ai vu beaucoup de couples qui ont tellement privilégié les amis sur la famille que ça a été des problèmes. Et je pense que l'amitié ne doit jamais se faire au détriment de la famille. Et garder le respect des conjoints, des enfants, enfin de la famille de l'autre, c'est très très important. Alors, c'est juste quelques petits points, parce qu'on a parlé de l'amitié de Jonathan et David. Elle reste quand même une exception. Et je ne pense pas que dans notre vie moderne, on puisse facilement, sauf un don de Dieu particulier. Je pense que certains missionnaires, peut-être, ont eu ce genre d'amitié avec d'autres missionnaires ou dans certains contextes de ministère, il y a eu ces porteurs d'armes, comme disait une de mes amies. Ces gens qui portaient les armes, on dit que Jonathan était le porteur d'armes de David. Voilà. Dans certains cas de ministère, ça arrive. Mais je ne pense pas que c'est le but à atteindre pour chacun d'entre nous, qu'on est là à prendre notre Bible et dire « Seigneur, je veux être un Jonathan pour un tel ou je veux qu'un tel soit un Jonathan pour moi. » C'est une exception. Comme l'a remarqué quelqu'un donc, qui a fait une bonne étude sur l'amitié, on n'a qu'un cas comme ça dans la Bible. Et l'autre cas où on utilise le même mot, c'est pour Jacob et son fils Benjamin. Donc vous voyez, c'est quand même assez rare. Si ce n'est pas plus courant que ça, c'est, je ne pense pas que ce soit le but à atteindre pour chacun d'entre nous. Après, c'est Dieu qui choisit. Peut-être il le permettra pour l'un ou l'autre. Mais voilà, soyons prudents de ne pas idéaliser un autre être humain parce que malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme. Il ne faut jamais l'oublier parce que l'homme est faillible. L'homme déçoit, tout être humain va décevoir l'autre. Tous ceux qui sont mariés le savent, on se déçoit mutuellement. Mais ça ne veut pas dire, là on a une alliance, c'est autre chose. Jonathan et David avaient fait une alliance, mais voilà, c'est quand même un cas assez exceptionnel. Alors, il y a un autre problème qu'on a vu la dernière fois et sur lequel je vous avais demandé de réfléchir, et merci beaucoup à tous ceux qui ont réfléchi. Du coup, je me retrouve avec beaucoup plus de choses que j'avais au départ. Je dirais même qu'une étude en particulier m'a assez convaincue. J'avais dit, c'est quand même triste que Jonathan soit reparti. Mais vous voyez, j'avais pas assez réfléchi. Ceci étant, c'est triste. Mais voilà, on va réfléchir un tout petit peu à l'époque et à qui était Jonathan. Il ne faut surtout pas, je pense qu'il ne faut pas commettre cette erreur de penser que Jonathan, c'est n'importe qui d'entre nous. C'est n'importe quel prince d'Europe. Oui, mais ce n'est pas n'importe qui d'entre nous. Hein ? Il ne faut pas oublier que c'était un prince. Ce n'était pas, comme nous, un quidam quelconque. C'était un prince. Donc on va se retrouver dans une situation, il ne faut pas trop se comparer avec des gens qui ne sont pas comparables. Bien sûr, s'il avait suivi David, sa vie aurait été très différente. Entre autres, ce qui m'avait le plus fait mal, c'est qu'il ne serait pas mort à la bataille, certainement, puisqu'il ne serait pas allé à cette bataille, peut-être mort dans une autre, mais voilà. Il serait sans doute second quand David serait roi. Ok, on sait ce que j'ai dit la dernière fois, c'est vrai. Mais voyez comme quoi le contexte de l'époque, c'est important quand on fait une étude biblique de voir quand ça a été écrit, dans quel contexte. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, et je pense que c'est la clé. De son côté, il savait que David honorerait toujours Saül, son père. Mais pour lui, quitter son père, en tant que prince, quitter son père, ce serait le déshonorer devant ses 3000 hommes d'élite et surtout devant l'ensemble du peuple. Ce qui n'est pas le cas pour quelqu'un d'autre. Hein. Pour un prince, c'est quand même un gros problème. Pour ceux qui suivent un petit peu les affaires de la couronne anglaise, rappelez-vous ce qui s'est passé avec ce prince, c'était Édouard, c'est ça ? Qui est parti avec une dame américaine et est venu vivre en France et a renoncé au trône. Le scandale que ça a fait, et on était en 1900... Voilà. Donc vous voyez, au milieu du XXe siècle, c'était déjà monstrueux. Donc vous imaginez, 1000 ans avant Jésus-Christ, un prince... Voilà, je ne vous fais pas de dessin. Se battre aux côtés de David, comme quelqu'un l'a relevé, c'était prendre le risque de tuer son père un jour. Jonathan était un très bon archer, mais une flèche perdue, ça peut toujours arriver. Et en plus de régicide, il aurait pu être parricide, c'est-à-dire il aurait pu tuer son père. Donc c'était quand même risqué, parce que c'était la guerre entre les deux, il ne faut pas l'oublier. Aux yeux du peuple, et Dieu sait que le peuple était encore soumis au roi, c'est ça qui rendait les choses difficiles pour David, parce que si le peuple avait dit « il y en a marre », De Saül, allez, on suit David, c'est lui qui a l'onction, etc. Non, le peuple, il a continué à être soumis à Saül, et je pense pas que c'était un si vilain roi que ça, parce que par exemple, on le voit quand on dit les Philistins sont arrivés, pouf, il y va, il quitte son cher ennemi, et il y va. Donc le peuple devait quand même se sentir en sécurité avec ce stratège, cet excellent soldat, avec sa troupe d'élite, là, il devait se sentir un peu en sécurité. Donc le peuple n'était pas du tout prêt à renoncer à Saül. Vous imaginez l'attitude de Jonathan s'il était parti, c'était la guerre civile. Voilà, c'était un bain de sang, et aux yeux du peuple, il devenait un traître. Tu vas t'opposer à l'homme qui nous protège des Philistins. Bon. Guerre civile, bain de sang, c'était pas l'idéal. Sa famille aussi, et ça, j'y avais pas pensé, risquait la mort. Parce que dans ce temps-là, quand on tournait sa veste, quand on allait de l'autre côté, on tuait la famille. Rappelez-vous ce que Saül avait fait avec les sacrificateurs de Nob. Il a tué non seulement les sacrificateurs, mais leur famille, leurs femmes et leurs enfants. C'était dingue, quoi. Et ça leur posait pas de problème. Apparemment, c'était comme ça, hein. Un ennemi, on peut tuer sa famille. Donc lui, il se sauve, d'accord, mais derrière, on va tuer sa famille. Donc je ne pense pas que Jonathan avait envie de ça, parce que, d'accord, il suivait l'homme qui avait l'onction, mais d'un autre sens, il faisait assassiner sa famille. C'est quand même un dilemme. Hein. C'est clair qu'il désapprouve l'attitude de Saül envers David, mais il reste fidèle au commandement d'honorer son père, mais pas forcément comme on le penserait aujourd'hui. Vous avez vu que civilement, militairement, psychologiquement, etc., familialement, c'était un problème. Et ce n'était pas seulement la notion d'honorer son père. Vous voyez toutes les conséquences que ça aurait entraîné. Donc, on peut bien sûr s'appuyer sur le fait de dire « il a honoré son père », c'est bien, mais dans ce cas-là, ce n'était pas forcément la seule motivation. Le fait d'être prince ne lui permettait pas de réagir comme n'importe qui dans le royaume. Il devait respecter l'onction royale aussi tant que Dieu n'avait pas appliqué ses menaces. Dieu avait dit « je lui retire la royauté, je lui retire l'autorité, etc. » Mais il n'avait pas appliqué la sentence. Est-ce que c'était aux hommes ? Ça, on va en reparler tout à l'heure. Donc la Bible, elle, ne fait aucun commentaire. Moi, j'en ai fait la semaine dernière. La Bible ne fait pas de commentaire, pas de jugement de valeur, pas même d'évaluation. Jonathan est présenté comme un homme fiable, et partout dans la Bible, comme un homme fiable, courageux, un ami fidèle. Alors je crois que nous aussi, il faut qu'on reste humble devant le texte. Et ne pas juger Jonathan. Et peut-être que quand Dieu ne nous donne pas de réponse coupée au couteau, il faut se contenter de méditer. Et s'il n'a pas jugé bon de nous donner une réponse, a-t-il eu tort, a-t-il eu raison ? C'est pas clair dans le texte. C'est pour ça qu'on s'est posé la question. Pour moi, c'est une preuve de l'authenticité de la parole de Dieu. Vous savez, les gens qui disent « Oh, la Bible, elle a été écrite par quelqu'un qui s'ennuyait », oui. Mes élèves me disaient ça parfois, ça me faisait rigoler. Mais la preuve que la Bible est authentique, c'est que justement, il n'y a pas de jugement de valeur. N'importe quel être humain bien constitué aurait donné son avis. Franchement, il aurait donné son avis. Oh, Jonathan ne pouvait pas. Oh, Jonathan a bien fait. Ou bien non. Voilà. Imaginez les commentaires d'un homme qui n'aurait pas été inspiré. La Bible est inspirée. Alors elle ne dit rien. Ça nous pousse à méditer la parole de Dieu. La Bible, ce n'est pas un recueil de oui, non, tu dois pas, il faut pas. Il y a des moments où il faut s'imprégner du texte, s'imprégner de l'Esprit de Dieu, prier. Et parfois avoir l'humilité de dire, c'est pas un problème simple. C'est pas coupé au couteau. Voilà. Donc c'est important qu'on ait fait ce tour. Alors, bien sûr, après, c'est là que certains ont utilisé ce texte pour dire honorer ses parents, c'est capital, c'est important. Alors évidemment, avec le texte, avec ce qu'on fait en ce moment à la maison d'Élie, on va dire oui, bien sûr. Mais quand même, j'ai longuement réfléchi là-dessus, parce que j'étais aussi, moi, un peu perturbée. Honorer ses parents, oui, a-t-il bien fait? Peut-être, Dieu ne dit pas. voilà, on se creuse la tête. Et puis finalement, Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas, alors, ce n'est pas une traduction formidable, c'est paraît-il, le vocabulaire de la préférence. Donc, on pourrait dire s'il ne préfère. Voilà, s'il préfère. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Donc, attention de ne pas prendre ce texte de l'Ancien Testament et de l'appliquer pour un quidam sous la Nouvelle Alliance. Vous voyez, ça, c'est un danger. Et il faut faire attention aux textes de l'Ancien Testament. Ils sont quand même liés à leur culture. Et il faut comparer ce qui est comparable. La vie d'un prince qui risquait de créer une guerre civile n'est pas la même que chacun de nous devant Jésus. Si quelqu'un vient à moi et qu'il ne, on va dire, s'il préfère son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, il ne peut pas être mon disciple. Donc il faut bien mettre les deux textes. Donc honorer, oui. Mais attention, la priorité est toujours à donner à Jésus. Et le cas de Jonathan était quand même un cas légèrement différent, parce qu'il entraînait derrière une guerre civile. Donc soyons prudents, d'où l'utilité de bien étudier sa Bible, de bien étudier le quand, comment, où, pourquoi, etc. Parce que sinon on peut aboutir à des commentaires du style « il a bien fait, il a honoré son père ». Oui, mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Et ce que Jésus dit aujourd'hui, c'est quand même d'accorder la préférence et la priorité à Jésus avant tout le reste. Bon, après, celui qui néglige sa famille et puis avec les invités, vous voyez comme quoi il faut connaître la parole de Dieu pour mettre tout ensemble. C'est comme un puzzle. Si vous prenez 3 pièces, 4 pièces, vous aurez un grand trou au milieu. Enfin, voilà, on ne peut pas. Il faut vraiment prendre tous les morceaux. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que Jonathan, il sait que David va être roi. Et il retourne chez lui. Saül, il le sait aussi, et il combat. Chacun a sa réaction. Hein. Les 600 hommes de David, ils le savent. Et ils ont décidé de suivre David. Et pour moi, ça me fait penser, Dieu nous laisse libre de nos choix. Et puis, il y a des habitants dans la région, les Ziphiens, eux aussi, ils ont fait un choix. C'est de trahir et de livrer David. Alors, on va arriver à ce texte qui est aussi impressionnant, le texte des Ziphiens. Je l'ai perdu. Si vous avez lu le texte, vous le connaissez par cœur, mais je vais quand même relire. Les Ziphiens. Je suis perdue, voilà mon petit papier. Voilà. David resta au désert, donc on a terminé en disant que, voilà. Saül, je ne vais pas le relire. On va lire la fin de ce que dit Jonathan. Au verset 17. « Sois sans crainte, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi, je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait aussi. » Parole extrêmement importante, parce que peu de temps après, vous allez voir, David va être coincé. Et je pense que ces paroles ont été un réel encouragement prophétique pour lui. « Mon père ne t'atteindra pas. » C'est important. Ils conclurent tous deux une alliance devant l'Éternel. David resta dans la forêt, Jonathan s'en alla chez lui. C'est là qu'on s'est arrêté. Des Ziphiens montèrent vers Saül à Gibéa. Donc c'est les gens du coin qui ont vu quand même 600 hommes, ça se voit, hein, il faut leur donner à manger, à boire, ils ont dû acheter de quoi manger et tout. David est caché parmi nous, dans les fortins, dans la forêt, sur la colline de Hakila qui est au sud de Yeshimon. Ils sont gonflés parce qu'on ne leur demandait rien. Donc il y avait une volonté de trahir là. Maintenant, puisque tu désires tellement descendre, descends au roi, la flatterie. Hein. Quant à nous, nous le livrerons entre les mains du roi. On est bon, on est gentil. Hein. Comment on se fait valoir ? Avec le sang d'un homme, c'est sympa. Saül dit, soyez bénis de l'Éternel. Ça m'a choqué. Non mais quand même. Car vous avez... Et pourquoi ? Soyez bénis de l'Éternel. Si on s'arrêtait là encore, ça pourrait aller. Mais pourquoi soyez bénis de l'Éternel ? Car vous avez des égards pour moi. Et là, Saül, on a remarqué hein, combien de fois c'est moi, toujours moi. Soyez bénis de l'Éternel. L'intérêt du peuple, du royaume, l'intérêt de Dieu, d'entre par ligne de compte, vous avez des égards pour moi. Et c'est un bon exemple, quand Dieu n'est plus au centre d'une vie, il y a toujours un autre Dieu qui prend la place. Vous savez, on dit toujours la nature a horreur du vide. Moi, je le remarque à la maison, si je débarrasse une étagère au sous-sol, c'est curieux, mais la nature a horreur du vide. J'en connais un qui va mettre n'importe quoi dedans, mais n'importe quoi. Et à chaque fois, il me dit, mais la nature a horreur du vide. Ben voyons. Enfin, quand Dieu n'est plus au centre d'une vie, eh ben, il y a un autre Dieu. Alors ça peut être n'importe quoi, l'argent, etc. Mais souvent, c'est moi. C'est plus Dieu. Alors, et malheureusement, c'est vrai pour nous aussi en tant que chrétiens, j'ai remarqué. On n'est pas à l'abri de ça, hein, parce qu'on est chrétien. Plus on va s'éloigner de Dieu, plus on va porter nos regards, comme disait Lynn tout à l'heure, sur nos difficultés, sur autre chose, plus Dieu va quitter le centre de nos vies, plus c'est nous qui allons prendre. Et nous, bah, on fait des bêtises. Voilà, on se fait du souci, on coule comme Pierre hein, quand il a quitté les yeux de Jésus. Voilà. Donc c'est le moi qui prend. Et en tant que roi, il ne s'occupe plus de rien d'autre, c'est moi. Sois béni parce que voilà, tu as des égards pour moi. Oh Seigneur. Saül ne voit plus que lui. Il ne s'occupe plus de rien d'autre, même pas de l'intérêt collectif. Et en tant que roi, il devait être responsable de l'intérêt collectif. Alors Saül est un stratège, on va le voir juste après. Et vous allez voir que c'était pas Hercule Poirot, mais il se débrouillait bien quand même. Hein. Allez, je vous prie, vérifiez encore. Oh, il voulait être sûr de lui. Hein. Faites des reconnaissances, examinez dans quel lieu il a dirigé ses pas et qui l'y a vu. Je vous dis, c'est Hercule Poirot. Car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Alors ça m'a pas plu. Il est fort rusé. Non mais il est gonflé, quoi. David est rusé. Lui, c'est l'agresseur, autant que je sache. L'agressé, c'est David. Et l'agresseur considère que celui qui fuit devant lui, il est rusé. Mais quand même, c'est honteux, il ne se laisse pas attraper. C'est vrai, un peu bizarre. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, cet acharnement, d'où il vient, je ne sais pas, la peur, la jalousie, mais il en fait une affaire d'État. Et vous allez voir. Examiner, donc, etc. La reconnaissance de toutes les cachettes où il a pu se cacher. En plus, il faut qu'il visite toutes les cachettes où il est passé pour chercher des indices. Puis revenez vers moi avec quelque chose de vérifié. Il était déjà bien scientifique quand même, c'est la police scientifique de l'époque. Et je m'en irai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Judas. Wow. Ils se levèrent donc et se rendirent à Ziph avant Saül. David et ses hommes étaient au désert de Maon, dans la Araba, au sud de Yeshimon. Saül partit avec ses hommes à la recherche de David. On le rapporta à David qui descendit du roc et resta dans le désert. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Maon. Et il avait rassemblé 3000 hommes d'élite. Et d'ailleurs, on va voir malheureusement oui, la prochaine fois comment David a considéré ça avec beaucoup d'humour. 3000 hommes contre un homme qui fuit avec 600 mécontents. C'est une réaction disproportionnée. Hein. Vous voyez un petit peu ? Tout ça, c'est pour retrouver un bonhomme. Non mais quand même. C'est disproportionné. Et vous savez ce qu'on a appris à la maison d'Élie, quand on a une réaction disproportionnée devant un problème, c'est parce qu'on a une racine amère. Et on le sait, Saül avait des racines amères. Jalousie, principalement. Une racine amère envers David. Réaction disproportionnée. Mais on ne va pas mobiliser 3000 hommes d'élite pour chercher un gars qui se promène dans le désert avec 600 copains. Quoi. C'est pas possible. 3000 hommes d'élite. Ils étaient à peine armés, ils n'étaient pas vraiment Bon, ils étaient courageux, mais quand même, 3000, ça fait 5 pour 1, si j'ai bien compté. D'ailleurs, David, alors je ne peux pas me retenir de le dire maintenant, quand il va parler avec Saül, vous vous souvenez ce qu'il lui dit ? Mais qu'est-ce que le roi d'Israël est venu chercher au désert ? Un chien mort ? Une puce ? Il avait de l'humour. Alors, ce qui est choquant, c'est qu'il considère que David est rusé, au lieu de reconnaître que c'est Dieu qui le protège. Et vous voyez, quand on est fou de jalousie comme ça, eh bien, on considère mal ce qui est bien, on considère bien ce qui est mal, l'agresseur devient l'agressé, la victime devient l'agresseur, enfin, on ne sait plus, il n'y a plus de repères. Et la victime ose être rusée parce qu'elle se cache. Rendez-vous compte, il est rusé. Ben oui, il n'a pas envie de se faire tuer, enfin, quand même. Et ce mécanisme-là, on le voit beaucoup chez les enfants. Ah, prenons un enfant. J'ai été quand même marquée par toutes ces années où j'ai eu mes cinquièmes, là. Prenons un enfant qui ne fait pas ses devoirs, qui n'écoute rien, qui a envie de s'amuser. Normal, surtout chez les garçons. Et prenons un enfant donc, qui refuse d'apprendre ses leçons, qui ne veut pas, voilà, ça ne l'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il va vous dire sur les profs ? Ben, ils sont stupides. Ils sont stupides, ils sont méchants. Ouh, les profs, c'est méchant. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas travailler. Et les élèves qui travaillent ? C'est des lèche-bottes. C'est des lèche-bottes. Voilà. Ben, quand on veut se justifier, eh ben, on noircit les autres. C'est pas compliqué. Et ça marche très bien. Et là, on a la victime qui se cache pour protéger sa vie et qui va être passée comme un agresseur. Manipulateur, Saül. Faire passer David pour un homme dangereux, alors que c'est Dieu qui le protège, c'était assez dangereux quand même de sa part. Parce que la ruse, elle ne venait pas de David, elle venait de Dieu qui le protégeait. Il ne veut pas voir la protection de Dieu sur le futur roi. Il va demander une enquête carrément policière. Il va en quelque sorte opposer son intelligence humaine à l'intelligence de Dieu. Ça, ne faut pas faire. Et j'ai pensé à un autre qui a fait la même chose, c'est Pharaon. Évitons de nous opposer à Dieu. Il ne faut pas s'obstiner, sinon on va droit vers l'endurcissement. Et chaque fois que Dieu nous montre quelque chose et qu'on s'obstine, et on en est tous là parce qu'on n'est pas parfait, chaque fois que Dieu nous montre quelque chose et on s'obstine, on s'endurcit, non, mais je ferai ce que je veux, et puis après tout, c'est ma vie, ainsi de suite, on finit par voir tout à l'envers. Et c'est ça qui fait peur dans ce texte. On voit mal ce qui est bien, bien ce qui est mal. Du coup, on ne peut pas diriger sa vie correctement. Les personnes qui, en fait, pourraient nous aider, qui pourraient être bien, elles sont méchantes, elles sont désagréables, elles sont dangereuses, elles sont rusées, enfin voilà, hein, Saül. Et puis, du coup, ben, on va aller vers d'autres qui sont peut-être beaucoup plus toxiques. Donc attention, chaque fois qu'on s'endurcit contre Dieu, nos valeurs changent. Alors évidemment, chez un enfant, ce n'est pas trop grave, hein, ça se corrige. Mais si ça ne se corrige pas, c'est embêtant. Parce que petit à petit, toute autorité, tout enseignant, quel qu'il soit, dans n'importe quel domaine, va devenir bête et méchant. Et du coup, voilà, les valeurs s'inversent et ça peut durer. Et parfois, on voit des gens de 50, 60 ans qui ont encore ces concepts. Personne n'a rien à leur dire parce que ce sont tous des méchants. Ils sont tous stupides. Et du coup, ben, on n'apprend plus rien. Les valeurs sont complètement changées. Donc, faisons pas la même chose avec le Seigneur. Essayons de ne pas nous endurcir quand il nous parle. C'est pas facile, hein, parce qu'on est humain. Notre tendance naturelle, c'est quand même de faire ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ce pauvre David ? Eh bien, il est dans le désert de Maon, verset 26. « Saül marchait d'un côté de la montagne, et David avec ses hommes de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment devant Saül, mais déjà Saül et ses gens cernaient David et ses hommes pour s'emparer d'eux. » Ah, ils sont pris en tenaille. Saül, vous savez, vous vous souvenez, c'était un bon stratège. Et j'ai remarqué qu'il avait déjà utilisé ça hein, dans le passé, tout au début de son règne. Il avait pris l'ennemi en tenaille. Il avait envoyé toute une troupe faire le tour et prendre l'ennemi des deux côtés. C'est un très bon stratège. Il a utilisé la même chose. Il a cerné David. Donc ça, pour David, c'était fini. Hein. 600 contre 3000, on fait vite le compte. C'était mort. Et lorsqu'un messager vient dire à Saül, « À toi de venir, car les Philistins ont fait irruption dans le pays. » Saül revint sur ses pas, il cessa de poursuivre David. C'est curieux, je croyais que c'était Dieu qui lui avait livré David. Il avait dit ça tout à l'heure. Marrant. Hein. Pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi on appela ce lieu, c'est là, à Maklibot, c'est-à-dire le lieu de la séparation. Dieu est intervenu in extremis. Ce qui est triste, c'est que Dieu est intervenu en utilisant les ennemis. Ah, parfois, Dieu se sert de n'importe quoi pour nous délivrer. On est surpris parfois dans des situations de travail. Moi, je me souviens de certains témoignages où les gens ont dit ben, « Dieu a utilisé quelqu'un qui ne m'aime pas du tout pour me sortir d'affaires. » Bizarre. Quelqu'un qui m'a toujours pris en grippe et qui, ce jour-là, a bien agi en ma faveur. Dieu peut utiliser qui il veut quand il a besoin de nous sauver. Et ça, c'est important de le garder présent à l'esprit. Dieu agit aussi, même quand on ne s'y attend plus. Et on a tous, je suis sûre qu'on ferait des témoignages, on a tous des témoignages de moments où on était cernés, il n'y avait plus de solution, il n'y avait plus de porte, il n'y avait plus rien, on était acculés dans un coin et Dieu est intervenu. On en a tous des situations comme ça et on sait que c'est vrai. Dieu utilise ce qu'il veut pour nous tirer d'affaire. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je ne sais plus qui a dit ça ce matin, mais c'était dans mon texte. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans nos circonstances. Il n'a pas dit son dernier mot. Il est maître du temps, des circonstances. Il a un plan et rien ni personne ne pourra s'opposer à lui. Et ça, ça fait du bien de sentir ça. Vous vous rendez compte, le rapport de force là, avec un pauvre homme qui était fou. Enfin, il y a un excellent bouquin que je suis en train de lire sur la folie de Saül. Il n'avait pas de quoi s'en tirer, le pauvre David, avec sa troupe de mécontents. Mais Dieu est intervenu. Dieu est maître des temps et des circonstances. Il a un plan et personne ne pourra s'y opposer. Et j'aime beaucoup ce verset de Job. Qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Eh bien oui, il faut être fou. Eh ben, c'était le cas de Saül. Il a cherché à obscurcir les desseins de Dieu, s'opposer au plan de Dieu. Et oui, il était fou. David, lui, ne va pas chercher à se battre, à se venger, à se défendre. Il va refuser de voir en Saül un ennemi à combattre. Il se contente de se sauver, se cacher, se protéger. Aucun désir de rétorsion de vengeance. Et c'est ça qui va être déterminant pour le chapitre suivant. Et le verset clé pour le chapitre suivant, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore travaillé, c'est « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Deutéronome 32, 35, Romains 12, 19 et Hébreux 10, 30. Les trois versets, donc vous voyez, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Oui, alors Deutéronome 32, 35, Romains 12, 19 et Hébreux 10, 30. Et ça, ça va être un thème extrêmement important, parce que c'est ça qui a fait la force de David. Ne jamais se venger lui-même. Ce qui ne l'empêche pas d'agir et de faire ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est là aussi, je pense que je n'ai pas le temps d'aborder le début du chapitre suivant. Oui, non. C'est comme vous voulez. Ok. Au chapitre suivant, il est important parce que en fait, lui aussi, il peut être très mal interprété. Alors souvent, le chapitre 24 est utilisé pour dire... Il faut pas toucher aux personnes en autorité. Oui et non. Donc on va commencer à lire. De là, David monta vers les fortins d'En-Gedi où il habita. Alors, vous avez tous remarqué, tout le monde a bien noté, En-Gedi, refuge idéal, je vous lis, hein, oasis, source d'eau, lieu fertile, nourriture, lieu plein de grottes. Bah, c'est important de savoir où. Vous voyez? Parce que quelqu'un a remarqué à juste titre, la bonté de Dieu pourvoit aux circonstances difficiles. Dieu l'emmène dans un endroit où il y a à manger, où il y a à boire, où il y a des cachettes. Ah, voilà. Si on ne l'avait pas su, on aurait loupé une bénédiction importante pour David. Et pour moi, entre parenthèses, c'est l'authenticité du texte. C'est pas autrefois dans un pays éloigné, il y avait un roi, une reine, etc. C'est dans un lieu précis. Est tellement précis qu'on comprend le texte avec le lieu. La Bible est vraie, elle est authentique, et ça me plaît tellement, de voir que dans des détails comme ça, le texte est authentique. Et on voit la bonté de Dieu qui pourvoit. Alors Saül continue sa chasse à l'homme. Dès qu'il en a fini avec les Philistins, Dieu lui avait donné David, mais apparemment ça n'avait pas marché. Donc il remet ça. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, il alla chercher David et ses hommes jusque du côté des rochers des boucs sauvages. Vous voyez, c'est extrêmement précis sur les lieux. Il arriva vers des parcs à moutons qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne. Effectivement, quelqu'un m'a fait remarquer que c'est un lieu plein de grottes. Ah, Il y entra pour se couvrir les pieds. Alors là, vous avez tous rigolé. À l'époque, alors plusieurs l'ont vu, hein, j'étais étonnée. Je dis bravo, tout le monde a remarqué qu'à l'époque, se couvrir les pieds, c'était un euphémisme pour dire faire caca. Parce qu'ils mettaient leur robe autour d'eux, ce qui fait que c'était discret. Et voilà, je ne vous fais pas de dessin. Bon. Alors, ce qui est important, et là plusieurs l'ont remarqué aussi, bravo, ça rend quelqu'un très vulnérable. Il n'est pas là avec sa lance et son arc, etc. Hein. Bon, il est dans une position qui n'est pas forcément très pratique si quelqu'un vous saute dessus. Hein, moi je le vois parfois, quand on s'accroupit à la maison et que le chien nous saute dessus, on est mal parce qu'elle profite toujours de ces moments-là pour mettre les pattes sur le dos. Et voilà. Bon, donc ce n'est pas une position pratique, on est vulnérable. Il était vulnérable parce qu'il était seul, c'est l'endroit où le roi va seul. Vulnérable par sa position et la proximité de ses armes, peut-être il les avait posées, on imagine, hein, c'est pas pratique. Et il se retrouve tout seul en face de 600 personnes là. Lui qui est arrivé avec 3000, il est tout seul en face de 600 qui étaient au fond de la grotte. Alors ça m'a fait rire, c'est l'humour de Dieu. Moi je trouve que Dieu a tellement d'humour. À Keïla, Saül pensait que David était coincé dans une ville avec des murailles et des portes. Il sera facile à tuer, vous vous souvenez? Et maintenant c'est lui. C'est lui qui est pris dans une souricière, mais David refuse de le tuer. Et vous savez, la Bible joue beaucoup avec ses... Il y a des théologiens qui ont fait remarquer à juste titre, d'ailleurs, dont Matthew Arnold, qui montrent que la Bible est sans arrêt à faire des contrastes comme ça. Et si on regarde bien les textes, on s'aperçoit que c'est vrai. Il va montrer la même situation à l'envers, de l'autre côté. L'un, il y va pour tuer, l'autre, il l'a dans la souricière, mais il refuse de le tuer. C'est souvent Dieu, c'est l'humour de Dieu, je pense aussi. Alors, première réaction, les hommes de David. Les hommes de David, ils se disent, voilà. Ils réagissent exactement comme Saül. Les hommes de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit. Il semblerait d'ailleurs que le texte original, l'Éternel t'avait dit ou disait ou a dit. Donc, dans le passé, ils vont imaginer une prophétie du passé. Ou elle a peut-être été donnée, on ne sait pas. Voici le jour où l'Éternel te dit, c'est moi qui livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, ils réagissent comme Saül parce que ce sont des hommes, ce sont des guerriers aussi, ils ont commencé, hein, ils ont réussi, ils ont gagné quelques batailles. Et dans ce temps-là, quand l'ennemi était livré entre vos mains, ben, il n'y avait qu'une chose à faire, c'était le tuer. Il n'y avait pas la Croix-Rouge. Il n'y avait pas les lois qu'on a maintenant. Donc les circonstances étaient favorables. On pouvait tuer le roi. Il faut penser à leur décharge. Ces hommes, ils sont lassés. Ils en ont marre de courir. Ils sont lassés d'être... Ils ont envie d'être libérés, de vivre une vie normale. On s'aperçoit plus tard qu'ils sont avec leurs femmes et leurs enfants, certains d'entre eux. Leur priorité, c'est vivre une vie normale. Retourner à une vie correcte. Leur désir... devient réalité. Et ils prennent leur désir pour une réalité. Dieu nous livre l'ennemi, on va être tranquille. C'est une réaction complètement naturelle, humaine, charnelle, on les comprend. C'était la réaction de Saül aussi. Mais c'était embêtant qu'ils disent « Dieu a dit » parce que ce n'était pas vrai. Ce n'était pas ce que Dieu avait demandé. La priorité de David, c'était de craindre, honorer Dieu, de faire ce que Dieu veut et de ne pas observer les coutumes des peuples. Ah, on retombe sur ce problème. Mes coutumes, ma culture familiale, ma culture nationale, etc. Et puis, ce que Dieu veut. D'où la nécessité de connaître la parole de Dieu. Ce n'est pas mes coutumes qui doivent diriger ma vie. La coutume, c'était « Dieu te livre l'ennemi, tu le tues !» C'était normal. Mais ce n'est pas comme ça que David marchait. Il marchait avec la parole de Dieu. Il cherchait la volonté de Dieu, pas sa culture. Il savait, et là je reviens sur ces versets, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. C'était hors de question d'exercer sa vengeance lui-même. Dieu avait donné la royauté à Saül, c'était Dieu qui devait lui enlever. Il fallait du courage. Hein. David, par contre, lui, il a visiblement un plan inspiré. Très inspiré. Quand on lit le texte comme ça, ça fait drôle. Hein. Allez, Dieu te l'a livré, il va couper un bout du manteau, discrètement. On imagine, hein, si c'était au cinéma, il a dû se glisser tout doucement et puis couper. Il devait avoir des bons couteaux dans ce temps-là, c'est pas comme les miens. Si j'ai des bons couteaux, je me coupe, donc il vaut mieux pas. Et c'est terrible. Pourquoi il fait ça? Et après ça, David sentit battre son cœur parce qu'il avait coupé le manteau de Saül.
Oh, David, toi qui as tué Goliath, quand même, tu vas pas vivre du stress pour un gars qui en veut ta vie et que Dieu te livre là. Ah.
Lui, il a une conviction profonde. Si c'est Dieu qui a choisi Saül, qui l'avait appelé, qui l'a oint, et si c'est Dieu qui a appelé David aussi, qui lui a donné la victoire sur Goliath, sur les Philistins avec Jonathan, qui l'a protégé des complots de Saül, qui lui a donné la victoire à Keïla et à Ziph, alors c'est à Dieu de donner ce royaume promis et ce n'est pas à lui de l'arracher. Ah, il connaissait Dieu, hein. Et ça me fait penser à ce texte qu'on lit toujours à la Sainte Cène, Jésus qui n'a pas cherché, je crois ça, comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. Pas cherché comme une proie arrachée. Quelle sagesse. Ses amis sont restés sur les lois de la guerre. Tuer l'ennemi quand l'occasion s'y prête. David reste sur les lois de Dieu. On ne tue pas par ruse ou par trahison un homme que Dieu avait établi comme roi. Ah, c'est un test pour lui. Ça me fait penser au test de Jésus au désert. Adore-moi et puis hein, saute de là, hein, tout en change ses pierres en pain, etc. C'est un test. Un test au désert aussi, dans une zone voilà, du sud. Fais ce qui te semble bon n'était pas la règle de vie de David. Vous vous souvenez, dans les juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et c'était la catastrophe. Alors que ce ne soit pas la nôtre non plus. Ah, oh, non mais quoi? On ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire? Ben, pas toujours. On ne peut pas toujours faire ce qui nous semble bon, mais ce qui semble bon à Dieu. David va couper un bout du manteau de Saül et son cœur bat, il est stressé. Pourquoi? Parce que son respect envers Saül n'est pas un vain mot, c'est pas juste un mot. Tu sais, parfois on dit, ah mais ces gens-là, je les respecte, mais ils sont ceci, ils sont ceci, ils sont cela, ils ont fait ci, ils ont fait ça, et puis voilà. Ça, c'est humain, hein. Mais David, il n'est pas comme ça. Il le respecte vraiment. Il le respecte au point que son cœur bat quand il coupe le bout du manteau. C'est dur, c'est pas un respect dans la tête ou dans les mots, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, le fait que le cœur batte, c'est un signe, hein. Parce qu'on ne maîtrise pas ça. Son regard est complètement différent de celui de ses hommes. C'est le roi qui était soucieux de le voir risquer sa vie en face de Goliath. Il pense à ça. Rappelez-vous quand il lui a prêté son armure. Il repense à cet homme qui retrouvait la paix quand David jouait de la harpe. Ils ont eu des bonnes relations ensemble. Il pense aussi, c'était son mentor militaire, qui l'avait accueilli dans sa famille. C'était son beau-père aussi. Je veux dire, il y avait des liens. Et on comprend que son cœur battait. Il n'avait pas envie d'assassiner cet homme qu'il avait connu comme un ami. Dieu avait rejeté Saül, mais il était toujours vivant. Il était toujours à son poste. Et c'était à Dieu de s'occuper du reste. Je pense que ça, c'était important. On va parler la semaine prochaine, parce que là, je pense que j'abuse un peu de votre temps. Et là, c'est vraiment une partie importante de ce texte. C'est que souvent, on utilise ce texte pour dire les personnes en autorité, alors que ce soit hors de l'Église ou dans l'Église, mais on va s'intéresser à l'Église, prêtres, pasteurs, évêques, missionnaires, directeurs d'associations chrétiennes, enfin voilà, les personnes en autorité, il ne faut jamais rien dire, il ne faut jamais rien faire, il faut laisser Dieu agir. Alors on va tomber dans l'excès inverse. D'un sens, vous avez les hommes de David qui disent « Allez, tue-le là, c'est l'occasion ou jamais ». Et puis maintenant, on a des chrétiens qui disent, beaucoup d'ailleurs, il faut laisser Dieu faire. Il faut laisser Dieu faire. Bon, le clergé catholique a laissé Dieu faire. On voit ce que ça a donné. On a vu les scandales qui ont éclaté. Ils ont laissé faire. Ah, là, on a un problème quand même. Hein. On a un problème. Alors, vous allez voir. C'est pour ça que ce texte est terriblement important. Comment il a fait, David, avec son petit bout de tissu, là. Là, je trouve, en étudiant le texte, j'étais émue de voir l'intelligence de David. Parce que parfois, on le peint comme l'homme plein de respect envers Saül, qui va l'honorer jusqu'à en mourir. Ah ah ! Regardez bien le texte si vous ne l'avez pas fait. Il l'honore, il le respecte, il ne le tue pas parce que la vengeance appartient à Dieu, mais il va lui dire ses quatre vérités. Et il ne va pas y aller de main morte. Mais, et c'est là que c'est très important, avec un respect. Il va s'incliner devant lui, etc. On va voir ça la semaine prochaine. Et je pense à mon expérience. J'avais un pasteur, il est décédé maintenant, malheureusement, qui était très tyrannique, très, très, très tyrannique. Je l'aimais bien parce qu'il prêchait super bien. L'histoire de ce matin, c'est lui. Et il connaissait sa Bible sur le bout des doigts. Et c'était un homme de Dieu, mais bon, très, très tyrannique. Et tout le monde avait des problèmes avec lui. Et les jeunes, ils faisaient la trouille. Mais j'avais remarqué une chose, dans la mesure où je le traitais avec respect. Parfois, je lui ai dit des choses qui ne lui ont pas forcément fait plaisir quand je lui ai dit que c'était interdit à l'époque d'aller dans d'autres camps chrétiens que ceux organisés par le mouvement. Bon, c'est pas trop mon caractère, ça. Et ma mère non plus, elle me disait, va à la Ligue pour la lecture de la Bible, va ci, va là. Et comment lui dire? Eh bien, je lui ai dit le plus poliment possible. Je lui ai dit avant d'y aller, je l'ai informé avec beaucoup de respect. Il ne m'a rien dit. Et les autres jeunes qui allaient l'engueuler avec des airs très supérieurs pour lui dire « Ouh, qu'est-ce qu'il prenait ?» Et là, j'ai appris quelque chose, j'avais 16 ans. Mais j'ai appris quelque chose qu'on va développer la semaine prochaine. Le respect. Ce n'est pas tout laisser faire. Ce n'est pas se taire. Mais c'est honorer par son attitude et par ses paroles, que ce soit le chef, même quand il a tort, que ce soit d'autres autorités, on va en reparler la semaine prochaine, c'est une règle de vie pour nous chrétiens. On respecte les autorités. Et ça n'empêche pas qu'on leur dira la vérité et qu'on protégera les gens qu'on a besoin de protéger. L'Église catholique en a fait les frais. Vous voyez en ce moment les problèmes qu'ils ont, parce qu'ils ont laissé faire, sous prétexte que c'était l'évêque machin. Attention, Dieu ne nous demande pas ça. Par contre, le respect, dans les attitudes et dans les paroles, vous allez voir David. Oh, moi, je lui tire mon chapeau parce que quand on a quelqu'un en face de vous qui a une intention, vous tuer, gardez ce même respect. Waouh. Et on va voir les conséquences sur Saül. Elles sont quand même très impressionnantes. Il en fait ce qu'il veut après, mais quand même quelque chose. Donc voilà, je crois que là, il y a un message très fort. Et c'est là peut-être qu'il faut faire attention de ne pas utiliser ce texte pour tout excuser chez les autorités. Que ce soit votre chef, votre patron... des profs, c'est toute autorité. Hein. Parfois même les médecins abusent de leur autorité. Attention à la façon dont on s'y prend, c'est ça qui va être fondamental dans notre vie de tous les jours, surtout quand il y a des conflits.